La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux.
Il n'y a pas d'édito enflammé sur le communautarisme blanc.
De sujets moins sérieux.
Ça peut être des bois sculptés à partir de formes naturelles interprétées.
De ce qui se passe en Ile-de-France.
Je me disais qu'à Paris, on était en avance sur la province.
Et de débats pas forcément consensuels.
Parlez-nous un peu de cette coupe menstruelle.
Tous les jours, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h sur le 93.9.
Bonsoir à toutes et à tous. Je vous propose de commencer cette matinale par une devinette. Qui a prononcé cette phrase en 2013 ? Quand allons-nous mettre en place l'inéligibilité à vie pour tous ceux qui ont été condamnés pour des faits commis grâce ou à l'occasion de leur mandat ? Oui, je suis sûre que vous l'avez, c'est Marine Le Pen. La même Marine Le Pen qui vient tout juste d'être condamnée à 4 ans de prison, dont 2 ans ferme, et surtout à 5 ans d'inéligibilité pour détournement de fonds publics. 46 cadres du Rassemblement national étaient payés par le Parlement européen alors qu'ils ne faisaient pas le moindre travail parlementaire, le tout pour un total de plus de 4 millions d'euros. La peine d'inéligibilité prononcée contre Marine Le Pen s'applique immédiatement et même si elle fait appel. Elle n'aura donc pas le droit de se présenter aux prochaines élections présidentielles. Son souhait a été ironiquement exaucé. Alors est-ce que c'est une bonne nouvelle ? Est-ce qu'il faut se réjouir ? Bien sûr, on peut se dire que la séparation des pouvoirs a encore un sens aujourd'hui, que la justice a pu faire son travail. On peut se dire que notre bonne vieille démocratie libérale résiste encore, au moins dans la forme. Mais déjà, les attaques fusent, la stratégie de victimisation se met en place. De Jordan Bardella à Pascal Praud, de Donald Trump à Vladimir Poutine, en passant par Giorgia Meloni et Viktor Orban. Gageons que toutes les extrêmes droites mondiales seront bientôt à l'unisson pour contester cette condamnation, crier au scandale, au déni de démocratie. Car c'est ça, et ça a toujours été ça, le mode opératoire de l'extrême droite, décrédibiliser les institutions pour prendre le pouvoir, puis détruire ces mêmes institutions pour rester au pouvoir pour de bon. Et alors le droit apparaît pour ce qu'il est, une fiction collective, une règle du jeu qui n'a de valeur que tant que tous les participants veulent bien y croire. Alors oui, chers auditeurs, l'extrême centre est déjà au pouvoir en France depuis un bout de temps, mais ça pourrait être pire. Peut-être Jordan Bardella ou Cyril Hanouna ou même Marine Le Pen elle-même. Oui, il paraît qu'elle pourrait quand même devenir première ministre vu que la première ministre n'est pas élue et qu'elle est inéligible. Bref, elle pourrait peut-être aussi même gagner en appel. Avec tout ça, je ne sais pas quel visage aura l'extrême droite quand elle arrivera au pouvoir, mais ce que je sais, c'est que je ne serai sûrement plus là à ce micro à faire ce genre d'édito. Alors, comme les bonnes nouvelles se font rares ces temps-ci, je dis oui, réjouissons-nous de cette petite victoire. Profitons du droit tant que la fiction tient encore. Au menu ce soir, nous allons rester dans le thème de la dystopie. Avec la pièce Louvre de la compagnie Rugir. Mélanie Nonotte, autrice et metteuse en scène, et Clémence Bressolier, comédienne, seront avec nous ce soir pour en parler au micro de Léa. Le Flash Info sera assuré par PA, et c'est Isnel et Tiffen qui se prêteront à l'exercice de la chronique. Mais tout de suite, c'est l'heure de l'interview et on va parler de santé mentale.
La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Sylvain Pinault qui répondra aux questions d'Éléonore. Bonjour Sylvain Pinault.
Bonjour.
Bonjour Éléonore.
Bonjour, bonjour Sylvain Pinault.
Sylvain Pinault, vous êtes membre de l'association La Maison Perchée qui aide les jeunes adultes à mieux vivre avec leurs troubles psychiques. Vous êtes également co-réalisateur du podcast La Perche qui parle de santé mentale et qui donne la parole aux personnes que vous accompagnez dans votre association. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir.
Merci, d'ailleurs je suis honoré de revenir dans ce studio du côté de l'interviewé, parce que j'étais bénévole ici, j'avais une émission Hemisphere Sound pendant 4 ans.
Un plaisir de vous accueillir à nouveau.
Voilà, je connais bien la maison et je suis content de voir que ça tourne toujours.
Éléonore, je te laisse la parole pour cette interview.
Merci Thomas. Bonjour Sylvain Pinault, à
bonjour.
Nouveau. On est très content de vous recevoir particulièrement ce mois-ci, parce que c'est le mois, à l'occasion pardon, du mois d'avril. La ville de Paris a pour grande cause la santé mentale. Et donc, vous venez nous parler, entre autres, de votre lien avec l'association La Maison Perchée. Votre podcast La Perche a été coécrit et co-réalisé avec Anna Klarsfeld. Et il me semble que vous aussi, vous inscrivez dans cette démarche à titre jugé parti, si je peux dire. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'avoir cette double casquette et cette expérience avant d'en dire un peu plus avec vos mots?
juge des casquettes, enfin double casquette, juge des casquettes, rien à voir. En fait, moi, je fais de la radio depuis longtemps, donc voilà, le fait de faire un podcast, disons que je savais à peu près le faire et que j'apprends tous les jours, mais et je voulais faire un projet autour de cette question de la santé mentale depuis des années. Au début, c'était plutôt quelque chose d'auto-centré, parler de mon histoire et avec mon entourage et des experts. Et ensuite, je me suis rapproché de la Maison Perchée, au début pas en ligne, parce que c'est une plateforme en ligne. Il faut le souligner, il y a énormément de groupes de parole qui ont lieu pour les proches et pour les gens concernés, premiers et premières concernés. Et donc, le premier jour de l'ouverture du lieu, donc avenue de la République, j'ai rencontré Maxime, donc un des cofondateurs de l'espace, et je lui ai dit que je voulais faire un projet de podcast là-dessus. Il m'a dit, let's go. Il est assez, on va dire, dynamique et dans l'entrepreneuriat. Donc, ça s'est fait petit à petit. J'ai rencontré Anna Klarsfeld, en effet, et on a lancé le projet. Et voilà, l'idée, c'est de donner la parole aux personnes concernées et à leurs proches pour construire un peu des savoirs collectifs autour de ces questions de santé mentale. C'est ce qu'on appelle aussi la psychoéducation, c'est-à-dire reprendre un peu le pouvoir sur ces thématiques parfois austères qui sont la psychiatrie, la psychologie. Voilà, il y a quand même un langage qui est propre à ces questions-là et qui est parfois compliqué. Et voilà, de reprendre un peu le contrôle, les connaissances sur ces questions et s'entraider, quoi, notamment. Et nourrir aussi l'espoir, c'est aussi la volonté de ces projets, c'est de nourrir l'espoir, notamment pour le moi que j'étais il y a 10 ans. Et c'est ce que Maxime aussi dit souvent, on aurait aimé avoir ça il y a 10 ans, donc on le fait pour ceux qui sont là et qui ont besoin d'aide.
Pour les futurs pères aidantes.
Ouais, les futurs pères aidants, voilà, ouais. Donc, créer un peu une dynamique de déstigmatisation et en même temps de travail, quoi. C'est-à-dire qu'on peut mettre en place des choses pour aller mieux et ça peut s'appliquer à énormément de personnes. On sait que les chiffres varient, mais c'est entre 1 à 4, une personne sur 4 ou une personne sur 5 sera touchée par un trouble de santé mentale dans sa vie. Bon, ça peut faire peur quand on n'est pas concerné, enfin quand on se sent pas concerné. Mais en fait, c'est vite le cas. Et moi, quand je parle de ce projet autour de moi, en tout cas à Paris, je sais pas si c'est un prisme, mais à Paris, il y a beaucoup de gens qui sont concernés ou qui ont quelqu'un dans leur famille concerné. Je sais pas si les gens vont particulièrement mal à Paris, mais en tout cas, je retrouve beaucoup d'écho avec ces projets. Donc ça montre que c'est loin d'être quelque chose de niche et de caché. Et on fait en sorte d'ouvrir le dialogue, en fait, tout simplement.
Peut-être rebondir sur quelques infos pour préciser à ceux qui nous écoutent. Donc la Maison Perchée, c'est en ligne bien sûr, mais c'est aussi sur l'avenue de la République à Paris, 11e arrondissement.
59.
Oui, 59 avenue de la République. Il y a un café, une galerie, plusieurs espaces pour ceux et celles qui se sentent concernés, qui ont des proches ou qui juste se posent plein de questions autour de la santé mentale, parce que évidemment ça réunit énormément de troubles. Mmh. Vous parliez de tout ce qui a trait à la dépression, il y a aussi le borderline, la schizophrénie, ouais. La bipolarité.
Ouais, ça, c'est les trois troubles majeurs. Et en fait, il y a des comorbidités, ce qu'on appelle, enfin, des troubles connexes, le trouble alimentaire aussi, de comportement alimentaire. Et la dépression qui ouais. Peuvent rentrer dedans. Après, ces trois troubles majeurs qui sont... on va dire concernés, ou en tout cas les personnes concernées rentrent dans ces trois types de diagnostics, mais c'est plus complexe que ça. Voilà, c'est un champ un peu large. Vas-y, je te laisse commencer.
Il y a une triple mission pour la Maison Perchée, ça fait beaucoup. Il faut accompagner à la fois. Donc il y a la mise en place de Canopée, qui est pour les principaux concernés qui ont des troubles, pour les proches aussi, très important, parce qu'on le souligne peut-être pas assez là-dessus, mais il y a une part énorme, c'est la moitié du parcours de rétablissement, c'est l'entourage, et donc les proches à former pour l'action La Boussole. Le contexte Zulbach, c'est déstigmatiser les maladies psychiques, parce qu'il y a quand même cette perception de... la folie qui est marginalisée et c'est l'autre et ça fait peur et c'est du mystère. Déjà pour ces actions, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu votre rôle par rapport à ça, que ce soit par le podcast, mais aussi peut-être dans votre parcours personnel, les personnes que vous avez pu mettre en lien pour faire évoluer ces missions justement.
Mmh. ma première approche, ça a été en tant que personne concernée. J'étais dans un moment plutôt down, ce qu'on appelle le trouble bipolaire, parce que je sais pas si Gilles, on l'a vraiment dit, mais on l'a évoqué. Mais voilà, j'ai un trouble bipolaire.
Il y a un TDAH. Il y a une phase maniaque et une phase dépressive pour ceux qui écoutent, et ça maniaque fait des gros up and down.
Ou hypomaniaque, donc c'est plus ou moins grave, mais voilà, la phase maniaque, ça va être la plus aiguë et qui peut durer plusieurs mois. Voilà, cette excitation, parfois de délire psychotique. Bon, ça n'a pas forcément été mon cas, là, en tout cas, ces dernières années. Et après, il y a cette phase down qui est décompensation. Voilà, c'est des termes un peu spécifiques à la psychiatrie, mais en tout cas, il y a une rupture, et voilà, ce qui amène à avoir une phase de dépression. Et ça allait déjà un peu mieux, mais j'avais envie de m'entourer et de parler de ces questions-là avec d'autres gens. Et donc là, je me suis rapproché de la Maison Perchée. Il y avait des groupes, notamment un groupe cinéma. Et on parlait de cinéma, on a commencé à écrire un petit court-métrage. Après, j'ai pas continué parce que j'étais plus impliqué sur le podcast. Il y a aussi des groupes de lecture, d'écriture, qui sont incroyables. On écrit avec des contraintes, soit des petites nouvelles ou des poèmes. Il y avait des groupes de théâtre. Moi, j'ai plutôt fait cinéma, écriture et yoga aussi. Trop bien. Donc c'est toujours cool vu le prix des cours de yoga aussi. Mais j'ai fait quelques séances comme ça. Et puis le fait de rencontrer des gens concernés, d'avoir des discussions ouvertes avec ça, ça m'a vraiment servi à ce moment-là. Ensuite, ça allait un peu mieux et j'ai rebondi. Ça s'est transformé en action de faire un podcast. Donc La Perche, et voilà, qu'on a lancé il y a 2 ans, c'est la deuxième saison. Donc mon action de père aidance se concentre autour de ce matériel-là. C'était des groupes de parole thématiques. Là, on est au 20e épisode. On aborde plein de thématiques différentes, que ce soit la dépression, les relations amoureuses, les relations professionnelles, la créativité. Là, le dernier, c'était sur le délire psychotique. Donc, c'était assez fort d'entendre des gens parler de leur délire. C'est quelque chose qui est... C'est un peu le tabou des tabous. Finalement, c'est quand on s'imagine vraiment des choses qui font partie de sa propre vie. Et là, ça devient quelque chose d'assez difficile à exprimer. Moi, j'enregistre les épisodes et après, je fais le montage. Donc, il y a un peu une double action de père et danse, au sens où j'écoute les gens et je leur pose des questions, comme on le fait ici, en studio. Et après, je monte leurs paroles pour que ce soit la plus fluide possible et que ce soit un format digeste, c'est-à-dire 40 minutes, 40-50 minutes.
On a évoqué le mot de père et danse, tout à l'heure. Peut-être une petite définition sur ce que ça représente. Et globalement, si ça représente aussi pour vous, pas un effet thérapeutique, mais le fait de rencontrer ces personnes-là, d'avoir quelque chose à leur donner, quelque chose à recevoir, et d'avoir un vécu différent et un parcours similaire. Est-ce que ça, c'est pas déjà de la part et danse avant même de savoir ce que c'est? Et est-ce qu'on peut le décliner aussi pour tous les troubles, en fait?
Ouais, totalement. C'est un terme qui vient plutôt des États-Unis. Et en France, c'est arrivé depuis les années 90, il me semble, 2000. Et là, ça tend à se professionnaliser. Donc, il y a des formations de médiateurs santé-père qui sont embauchés dans les hôpitaux. Et donc, pour revenir à la définition, c'est d'être un père, donc P-A-I-R, une personne concernée qui puisse aider les autres. Mais c'est plus la supervision. Enfin, dans ce cadre-là, ils font vraiment partie de l'équipe soignante à l'hôpital. Donc, c'est pas juste animer un groupe de parole de temps en temps, C'est vraiment une sorte d'infirmier concerné. Voilà, c'est un peu hybride, c'est assez nouveau. Donc, ça tend à se généraliser. Là, il y a des appels d'offres de la PHP pour ouvrir un peu ces postes-là au sein des hôpitaux. Et en effet, ça peut s'appliquer à d'autres thématiques, notamment pour les patients souffrant de cancer. Ça existe déjà et ça tend en tout cas, c'est validé par la médecine et ça fonctionne. Mais en effet, il faut des moyens et de l'accompagnement. À la Maison Perchée, ça passe par une formation. Donc les gens sont formés pendant plusieurs mois pour savoir un peu de quoi il en retourne et comment on peut accompagner au mieux les personnes.
On va poursuivre cette discussion juste après une petite pause musicale. Tout de suite, on va écouter Longue Sardine de Oxys.
Thank you.
c'était Long Sardine de Oxys.
La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
Et nous sommes de retour à l'antenne avec Sylvain Pinault de la Maison Perchée qui est interviewé par Éléonore et nous parlons de santé mentale.
Du coup, pour reprendre un petit peu le fil conducteur dans ce qu'on disait, il y a des formations comme le PSSM, des programmes comme Bref qu'on peut financer et qui sont un petit peu comme un brevet de secourisme, mais pas pour la santé physique, mais mentale. Et donc ça permet de mieux réagir dans des contextes de crise où il faut des situations d'urgence et surtout des situations appropriées, parce que c'est des troubles qui sont mentaux, mais sont aussi différents pour chacun et chacune. Et justement, la Maison Perchée propose elle aussi de former ces pères aidants et ce secourisme un petit peu du cerveau. Est-ce que c'est gratuit? Est-ce que c'est disponible pour tous et pour toutes? Est-ce qu'il y a un lien avec le fait de faire partie de l'association pour ceux qui nous écoutent et que ça intéresse?
Ouais, c'est gratuit, mais c'est pas ouvert à tout le monde. Enfin, déjà, c'est ouvert aux membres de la Maison Perchée, donc les canopiens, les personnes concernées. Et ensuite, déjà, il y a beaucoup de demandes en ce moment. Donc, je ne peux pas te donner les chiffres là tout de suite, mais en tout cas, il y a beaucoup d'attentes. C'est entre 2 et 5 mois, je pense. Parce que plus on en parle, et en fait, plus on se rend compte qu'il y a des gens concernés. Et en fait, c'est une structure qui vient remplacer peut-être un manque, mais qui, de fait, ne peut pas remplacer l'hôpital. Enfin, ce n'est pas le but, hein, du coup. Mais en tout cas, on sent qu'il y a un besoin et il y a un intérêt pour ces questions-là. Et ensuite, la formation des médiateurs santé, enfin, des pères aidants. C'est en interne, il y a des promotions internes tous les ans. Donc là, il y a une forme de sélection. Voilà, pareil, ça, je ne peux pas te détailler un peu le processus, mais en tout cas, c'est pour que les gens soient à même de mener des groupes de parole, ce qu'on appelle les nids, comme tu disais, ou les perchoirs. Les perchoirs, c'est des groupes collectifs et les nids, c'est individuel. Donc voilà, après la PSSM, comme tu disais, c'est premier secouriste en santé mentale. Nous, on l'a fait avec la Maison Perchée. Donc en tant que père aidant, ils nous ont payé, enfin en tout cas ils ont eu accès à cette formation pour plusieurs personnes de la Maison Perchée. On l'a fait pendant, ça dure 2 jours la formation et on a aussi un livret et ça permet de réagir comme on peut le faire. Après finalement c'est assez complexe et c'est des troubles cliniques, donc c'est plutôt comment réagir quand une personne parle de troubles suicidaires ou ce genre de choses là et comment l'orienter au mieux. Parce que voilà, ça reste des choses, des problématiques assez complexes et on ne peut pas remplacer les médecins. Ce n'est pas l'idée. Et voilà, c'est plutôt comment accueillir cette parole-là, qui est parfois une parole complexe et très dure, et ensuite réorienter les gens.
Donc la Maison Perchée, elle agit dans un parcours de post-hospitalisation. Après le suivi médicamenteux, psychiatrique et d'autres pratiques, parce qu'il y a, par exemple la sophrologie, ça peut aider pas mal, les TCC, enfin chacun trouve son approche. Et à côté, il y a aussi cette approche de la Maison Perchée où on a un condensé d'expériences, de témoignages, et en fait c'est peut-être aussi ce concentré de vie qui permet, tu parlais d'espoir tout à l'heure, de voir autre chose que le diagnostic ou le mur du mot de la maladie.
C'est ça.
Je voulais peut-être te poser une petite question par rapport à cette jeunesse qui peut être perdue face à ce mot et ses stigmates. La Maison Perchée accompagne des jeunes de 18 à 40 ans et il y a eu un boom ces dernières années de consommation chez les jeunes de 15-25 ans pour les antipsychotiques, les anxiolytiques. Comment vous percevez ça depuis le milieu associatif, même toi dans tes rencontres pour le podcast notamment?
Après voilà, j'ai une approche voilà, en tant que bénévole quoi, et réalisateur du podcast La Perche, on sent qu'il y a un intérêt de plus en plus prononcé sur ces questions-là, notamment sur les réseaux sociaux, on voit de plus en plus de comptes et parfois beaucoup de fake news aussi quoi, sur le TDAH, notamment le trouble de l'attention. Il y a énormément de fausses informations. Après, voilà, sur la souffrance psychique, c'est aussi assez relatif. En fait, parfois, il y a des chiffres qui te disent que les jeunes se sentent à 80% bien. Et donc, peut-être que la faute souffrance aiguë est plus aiguë. Mais en termes de statistiques générales, est-ce que c'est plus important qu'avant. Ça, en fait, c'est des questions épidémiologiques, comme on dit, et que malheureusement, je ne peux pas. Enfin, je ne me sens pas la compétence de répondre à ces questions, enfin à toutes les tendances, on va dire. Mais bien sûr qu'on reçoit. On ressent, en fait, tout le monde le ressent, ce sentiment de. Parfois d'anxiété qui est plus forte, des gens qui vont plus parler de leur dépression, qui vont plus évoquer tous leurs problèmes de santé mentale, quoi, comment ils interagissent avec le monde. Après, est-ce que c'est le monde qui est plus violent ou plus dur qu'avant, et cette société aussi, où on est tous sur nos écrans, où ça va de plus en plus vite. De fait, nos cerveaux ne sont pas forcément câblés pour recevoir toutes ces infos, et ça peut lier à des dérèglements. Et ça, c'est, des neurobiologistes en parlent aussi. Donc il y a plein de pistes, en fait, et ça va très vite. Et voilà, en 10 ans, il y a eu énormément de changements avec les réseaux sociaux, avec la façon dont on interagit les uns envers les autres. Donc voilà, c'est des choses très complexes. Le fait est qu'on libère la parole sur ces questions. Voilà, on parle de Nicolas Demorand, là, qui parlait sur Inter, qui en a parlé dans Le Point, dans une interview qui est assez bien. Après, les termes choisis sont un peu regrettable au sens de parler de maladie mentale alors que personne ne parle de ça dans les personnes concernées. Enfin, même si lui veut décider d'estigmatiser pour nous, bon, c'est très bien, mais il n'est pas obligé d'avoir des termes aussi chocs. Après, je comprends qu'il soit habitué à le faire en tant qu'animateur, et il le fait souvent, et par ailleurs je pense que son bouquin est bien. Mais voilà, il y avait ça, et le fait de parler d'un MeToo, de la santé mentale, je vois pas trop... quelle est la pertinence de ce terme. Mais bref, ça c'est autre chose. Voilà. Mais on voit quand même, suite à ce témoignage, il y a eu beaucoup d'autres émissions. Sur France Info, là, ils ont invité Camille Test, qui a le podcast Encore Heureux, sur Binge, et qui a parlé de toute cette question-là. Donc voilà, il y a un discours qui se libère, c'est super bien. Voilà, après, il faut juste choisir les bons mots, savoir à qui on parle, et savoir ce qu'on dit. Et aussi admettre le fait quand on ne sait pas. Et ça, les gens ont parfois du mal.
Justement, là-dessus, il nous reste un tout petit peu de temps. Ouais. Demain, il y a un talk and walk organisé par la Maison Perchée. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut vous retrouver, qu'on soit père aidant ou pas, qu'on soit bénévole ou juste qu'on s'intéresse à l'association et qu'on ait envie de contribuer avec notre temps et nos pieds?
Ouais. Oui, du coup, ça fait partie d'un programme avec Courir pour toi, qui est mené par Louis Derien. C'est une personne le frère s'est ôté la vie suite à des problèmes de dépression très forts. Et donc il a décidé de s'emparer de ces questions-là et donc de mener un projet qui aborde ces questions par la course. Et donc là, il y a trois courses, une demain. Non, le premier, donc...
Trois courses en avril.
Trois courses, ouais, le 15 et le 29. Et on compare de la Maison Perchée, donc 59 Avenue de la République. Et on fait une course et on peut aussi marcher. Donc il y aura deux vitesses possibles pour ceux qui sont moins sportifs. Et pour les détails, vous pouvez retrouver sur l'Insta de Maison Perchée. Et pour l'heure, je pense que c'est en fin de journée. Enfin, j'ai pas l'heure là directement, mais... Et voilà, il y a aussi le lancement du manifeste Perchée, là, le 12 avril. Donc là, c'est pour rappeler aussi les questions plus politiques, plus larges, de juste ce qu'on fait, quoi. À la Maison Perchée, ça rentre dans un cadre beaucoup plus large.
Une dernière précision, on n'a pas eu le temps de tout évoquer, mais vous pouvez retrouver sur lamaisonperchée.org un nombre incalculable de wiki santé mentale, et aussi énormément de guides qui ont été faits avec des psychiatres et des professionnels de santé. Des guides pour chaque trouble et chaque comorbidité associée. Tout est gratuit et disponible en ligne. Je vous invite à consulter et à vous rendre au Talk and Walk prévu de demain, départ la Maison Perchée, avenue de la République.
Et aussi d'écouter le podcast.
Oui, bien sûr. La Perche, de nombreux épisodes disponibles sur Spotify, Deezer, podcast, voilà. Etc. Merci d'avoir été avec nous.
On ne va pas vous laisser partir tout de suite, on a encore quelques minutes. J'ai peut-être vous poser une question avant de se quitter. Vous avez parlé du podcast et de votre démarche personnelle. Est-ce que ce podcast et votre participation dans l'association ont été thérapeutiques aussi pour vous, en fait?
Oui, totalement. Déjà, à travers les ateliers, mais ensuite le podcast, il y a cette question de porter la parole au-delà des murs de la Maison Perchée et de le faire ici. J'ai fait une vidéo pour France Inter qui a été pas mal relayée. Le podcast a été relayé par d'autres comptes, notamment Camille Diao qui est journaliste. Je pense que c'est quelque chose de thérapeutique et ça engage une forme de responsabilité au sens où on reçoit le vécu de chaque personne, leur parole, et on essaie de l'honorer au mieux déjà au niveau du son et ensuite au niveau du montage, d'en faire quelque chose de consistant, d'intéressant et qui puisse voyager en fait à travers les ondes. Et je trouve ça assez fabuleux quoi, en tant que très grand audiophile et homme de radio, enfin je ne sais pas, en tout cas radiophile, je trouve que c'est une des plus belles manières de voyager, c'est-à-dire à travers les oreilles des gens. Et c'est aussi, il y a cette question du podcast, où tout le monde aujourd'hui parle de podcast, plutôt vidéo. Enfin, il y a une sorte de distinction, de confusion entre les deux. Là, les gens veulent souvent pas être filmés, parce que c'est plutôt un témoignage assez difficile déjà. Donc le son permet cette décloisonnement en fait des choses et les gens une fois qu'on les met un peu en confiance, ils oublient en fait le micro et ils peuvent délivrer des choses assez fortes et notamment analyser les choses parce qu'on n'est pas dans le vécu sensationnel. On est vraiment sur l'analyse, le retour sur ce qui se passe et comment on peut vivre avec. Donc ça demande aux gens d'être en confiance et c'est ce qu'on essaie de faire.
Mais aussi, j'imagine, un travail sensible, vous qui êtes personne concernée, j'imagine que c'est quelque chose... Enfin, votre position, elle apporte une relation particulière avec les interviewés.
Oui. Je pose des questions situées, quoi, comme on dit, le journalisme situé. Et parfois, je parle plus de ce que je ressens, et parfois, au montage, je le coupe, parce qu'il y a déjà beaucoup de témoignages, en fait, c'est pas l'idée de trop se mettre en avant, mais en même temps, je pense que ça aide les gens concernés de savoir... de quoi on parle, et je fais un autre podcast qui s'appelle En Substance, sur les addictions, pour Addiction France, et pareil, j'ai connu aussi des... Enfin, c'est souvent lié, en fait, les troubles psy et les addictions, c'est souvent c'est ce qu'on appelle des comorbidités, et maintenant, ça va à peu près mieux, mais en tout cas, pareil, j'essaie de poser des questions situées et concernantes, et les gens m'en sont reconnaissants, et du coup, ça crée quelque chose d'assez beau.
Merci beaucoup, merci Sylvain.
Merci.
Merci Léonore, et je vous invite à écouter ce podcast. Tout de suite, c'est l'heure du Flash Info.
Le Flash Info de la matinale de 19h.
Et c'est PA qui assure le flash ce soir. Bonsoir PA.
Bonsoir Thomas, bonsoir à toutes et à tous. Et on est parti pour les actualités de ce lundi 31 mars. Le verdict est donc enfin tombé ce matin dans l'affaire dite des assistants parlementaires du Rassemblement National. Le tribunal judiciaire a déclaré le parti d'extrême droite coupable de détournement de fonds publics sur le dos du Parlement européen, en déclarant certains de ses permanents comme assistants parlementaires. L'ex-présidente du RN Marine Le Pen a été condamnée à 4 ans de prison dont 2 fermes, ainsi qu'à 5 ans d'inéligibilité avec application immédiate, ce qui compromet donc sérieusement son éventuelle candidature pour la présidentielle de 2027. Le RN a également été condamné à 2 millions d'euros d'amende, dont 1 avec sursis, ainsi qu'au versement de 4,4 millions d'euros de dommages et intérêts au Parlement européen. Marine Le Pen a annoncé cet après-midi par le biais de son avocat qu'elle ferait appel de sa condamnation. Le projet de réforme de l'audiovisuel public est de nouveau sur la table pour la troisième fois en un an et demi. Porté par la ministre de la Culture Rachida Dati, ce projet vise dans sa version révisée à réunir 3 des 4 entreprises de l'audiovisuel public, à savoir France Télévisions, Radio France et l'INA, dans une holding nommée France Média qui chapeauterait le tout sous l'autorité d'un ou une présidente désignée par l'ARCOM. Dans un communiqué, l'intersyndicale de Radio France a dénoncé, je cite, « un projet sans aucune pertinence qui profiterait aux acteurs privés ». De son côté, France Télévisions a fustigé, je cite, « un carnage, un projet quasiment dystopique ». Pour protester contre ce projet, les syndicats de l'audiovisuel public ont appelé à une journée de grève demain, mardi 1er avril, et même dès aujourd'hui pour la CGT. La proposition de loi associée au projet de réforme sera examinée en commission parlementaire demain et présentée à l'hémicycle le 10 avril. Et puis Donald Trump en roue libre dans son interview téléphonique accordée à la chaîne américaine NBC hier. Au sujet de la guerre en Ukraine d'abord, Trump s'est dit furieux contre Vladimir Poutine qui multiplie ses conditions d'avance. qui multiplie ses conditions avant d'accepter un éventuel cessez-le-feu. Le chef du Kremlin avait notamment évoqué vendredi l'idée d'une administration transitoire pour l'Ukraine, sans Volodymyr Zelensky donc, avant toute négociation. En réaction, le président américain a notamment menacé la Russie, je cite, d'imposer des droits de douane secondaires sur tout le pétrole qui sort du pays, avant d'indiquer qu'une nouvelle discussion avec Vladimir Poutine était prévue dans la semaine. Dans cette même interview, Trump a également brandi la menace de bombardement contre l'Iran si Téhéran ne signait pas d'accord sur le nucléaire, et a réaffirmé sa détermination, je cite, d'obtenir le Groenland. Cerise sur le gâteau, le locataire de la Maison Blanche a assuré qu'il pourrait se représenter pour un troisième mandat à la présidence des États-Unis, en dépit des règles fixées par la Constitution américaine. Je cite, je ne blague pas, il existe des méthodes pour faire ça, a prévenu le président américain. Vous voilà briefé sur les actus du jour, je te rends la main, Thomas.
Merci Pierre pour cette chronique, et tout de suite, on écoute Can We Talk About Isaac de Rachel Chininouri.
Should be here. I feel I'm depressed and I look like a mess. I'm in pieces. He had a little black coat, 6'1", and a cute smile. Put two pants in his hands. He came over and said, "Nice to meet you." Hey.
C'était Can We Talk About Isaac de Rachel Chininouri. Et tout de suite,
la matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
Tout de suite, je laisse la parole à Isnel pour sa chronique. Bonsoir Isnel.
Bonsoir, mesdames et messieurs, accrochez-vous à vos sièges, car aujourd'hui, on parle de l'événement judiciaire de l'année, voire de la décennie. Un scénario digne d'un thriller politique, coup de théâtre, rebondissement, condamnation en pagaille, bref. Si la politique était une série Netflix, on serait sur la saison finale. Ce lundi 31 mars 2025, le tribunal correctionnel a de Paris a sorti la boîte à gifles. Marine Le Pen et plusieurs cadres du Rassemblement National sont reconnus coupables dans l'affaire des assistants parlementaires fictifs. Préjudice, 2,9 millions d'euros de salaire payés par le Parlement européen pour des employés qui apparemment passaient plus de temps au QG du RN qu'à Bruxelles. Et là, coup de massue, Marine Le Pen écope 4 ans de prison, dont 2 fermes sous bracelet électronique, rejoignant ainsi le club très VIP, très exclusif de Monsieur Sarkozy, le tout accompagné de 100 000 euros d'amende et surtout de 5 ans d'inéligibilité immédiate. En clair, la présidentielle, c'est sans elle. Dans le ciel du naufrage, l'équipage trinque aussi. Son ex-chef de cabinet, son garde du corps, l'ancien trésorier du parti, plusieurs eurodéputés, tout se passe à la caisse avec des peines de prison, des amendes, des inéligibilités. Même le Rassemblement National en tant que parti prend cher. 2 millions d'euros d'amende. Franchement, à ce rythme-là, ils vont finir par ouvrir une cagnotte GoFundMe. S'il vous plaît, ne la financez pas, s'il vous plaît. Alors, évidemment, chez les Le Pen, on crie au complot. L'entourage de Marine hurle à la manœuvre politique. Lui et Alliot parlent de tâches indélébiles la démocratie, pardon. Bref, tout le monde sort le manuel du parfait persécuté édition 2025. Mais la vraie question, c'est qui pour 2027? Marine Le Pen out. Tous les regards se tournent évidemment vers Jordan Bardella. Problème, est-ce qu'un président de parti aussi bon soit-il en meeting sur les plateaux télé à l'étoffe d'un candidat à l'Élysée? Les étudiants sont toujours marqués par sa performance à l'amphithéâtre Tolbiac. En côté finance, c'est pas la fête non plus. Entre les amendes et les remboursements dus au Parlement européen, le RN va devoir serrer la ceinture. Heureusement, leur prêt à la banque tchéco-russe est déjà réglé. Sinon, on aurait presque vu Bardella sur le trottoir avec une pancarte. Un petit million pour sauver le parti, s'il vous plaît. Dans l'opposition, les réactions fusent. La gauche salue la droite, le travail de la justice. La droite reste prudente. Et Jean-Luc Mélenchon en profite pour relancer son idée de référendum révocatoire. Pendant ce temps, l'international, c'est le grand soutien. Victor Orban sort un « Je suis Marine ». Je pensais qu'on en avait fini avec ça. Sur X, Geert Wilders parle de scandale et toute l'extrême droite européenne se serre les coudes comme un bon mauvais remake des Avengers. Il y en a beaucoup en ce moment. Alors, quel est l'avenir pour Marine Le Pen? Un retour en grâce est-il possible? Mais la route est semée d'embûches. L'option d'une grâce présidentielle a été évoquée, mais bon, franchement, vu l'ambiance actuelle, je pense que c'est aussi probable que François Bayrou qui rejoigne la CGT. Une chose est sûre, avec cette condamnation, l'histoire du Rassemblement National vient de prendre un grand tournant. Est-ce la fin du feuilleton Le Pen en politique ou un cliffhanger pour une prochaine saison surprise? Réponse dans les prochains épisodes.
Merci Isnel pour cette chronique. Décidément, Marine Le Pen est la star de la soirée. Mais comme on ne sait pas quand sera la prochaine condamnation de ce type-là, on a raison d'en profiter. Et tout de suite, c'est l'heure du Zoom.
Le Zoom, dans la matinale de 19h.
Parfois, on ne sait pas très bien si on vit dans une dystopie ou si c'est la réalité. Mais ce soir, nous avons le plaisir de recevoir deux personnes qui vont nous parler de ce qui, j'espère, est et restera une dystopie. Nous recevons ce soir Mélanie Nonotte, autrice et metteuse en scène, et Clémence Bressolier, comédienne. Bonsoir à toutes les deux.
Bonsoir.
Vous allez nous parler de votre pièce, Louve, et vous faites partie de la compagnie Rugir. Tout de suite, je laisse la parole à Léa pour mener cette interview. Bonsoir Léa.
Bonsoir et merci. Tu l'as bien dit Thomas, dystopie, femme et courage, voilà ce qu'on peut retrouver dans la pièce de théâtre Louve de la compagnie Rugir, qui se produit pour la première fois à Paris. Et donc du coup, bonsoir Mélanie, bonsoir Clémence, merci d'être là, ça va ?
Oui, super, on est très contente d'être là.
Eh bien on est contente de vous recevoir. La pièce Louve est un spectacle dit féministe de science-fiction d'anticipation. Ça fait beaucoup de mots qu'on va prendre le temps de décortiquer dans cette interview. Mais juste avant, pour commencer, Clémence, tu es actrice, tu joues quel rôle dans cette pièce ?
Je joue le rôle d'Ethna.
D'accord.
Qui est ce qu'on appelle une infra, que Mélanie vous expliquera tout à l'heure. Une infra qui est là depuis 10 ans dans la tanière enfermée.
10 ans. Alors, bah, du coup, Mélanie, infra, tanière, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on retrouve dans cette pièce?
Eh bien, je vais vous parler du résumé, avant toute chose. Donc, du coup, on se retrouve en 2173, où on suit donc, du coup, le personnage d'Etna, donc, interprété par Clémence. En fait, l'histoire, c'est... C'est une dystopie, donc, où un groupuscule masculiniste et autoritaire arrive au pouvoir. Donc, ils sont aussi conservateurs. Et donc, du coup, vont bannir tous les droits des minorités sociales et de genre. Et donc, du coup, les femmes indociles et infertiles vont devoir travailler pour l'État gratuitement, parce que c'est passé comme ça. Et donc, du coup, l'idée, c'est qu'on a inventé un monde où il y a le monde de la surface et le monde d'en bas, donc qui sont en fait des prisons, donc sous terre, qui sont des anciens logements de réfugiés climatiques, qui, bah, du coup, reforment pour des prisons de femmes, pour des travailleuses de cette société-là. Et donc, du coup, on retrouve Etna, qui est infertile à ses 16 ans, qui est diagnostiquée infertile, et du coup, va devoir travailler pour cet État. Donc, elle vient de cette classe d'en bas. Donc, elle est enfermée avec une intelligence artificielle qui la surveille, ce qu'on appelle une radio de surveillance. Il faut savoir que dans ce monde, on a des radios de surveillance dans les foyers, donc dans la surface et sous terre aussi. Sauf que dans cette tanière... Cette petite radio intelligence artificielle ne travaille pas vraiment pour le gouvernement, parce qu'il faut savoir que son ex-codétenu, Mathilda...
Donc le binôme avec lequel tu es en scène ?
Alors la non. précédente dans l'histoire.
D'accord.
Et c'est tout un lore. qui n'est plus dans la tanière au moment où le public voit le spectacle.
D'accord. On rencontre Etna, donc.
Voilà, donc on rencontre Etna et on rencontrera un autre personnage, mais qui n'est pas Mathilda.
D'accord.
Qui avait donc, comme disait Mel, bidouillé la radio.
D'accord.
Pour en faire une alliée.
Oui, c'est ça. C'est une ancienne mécanicienne, Mathilda, qui n'apparaît pas du tout sur la scène, mais qui est, du coup, par le discours...
Est présente.
Est présente quand même par rapport au personnage d'Etna, ce qui est sa binôme fort. Je vais pas vraiment spoiler le spectacle quand même. Et qui, du coup, bidouille cette machine et qui, du coup, devient une intelligence artificielle qui va protéger les femmes de cette prison-là. Donc sur scène, vous allez trouver une cage métallique où on enferme donc ces deux un personnage, Etna, et vient un jour une femme qui s'appelle Cécilie, qui est jouée par Margot Chevrel, qui n'est pas là avec nous ce soir, et qui, elle, vient d'une classe modeste, on va dire une classe C, D, voilà, c'est des catégories sociales assez...
Alors
assez...
ça va jusqu'à où, la catégorie sociale?
On a compté jusqu'à... H à peu près.
D'accord, donc elle est au milieu, plus ou moins.
Et voilà, tu vois, classe moyenne, bien.
Okay.
C'est pas fou, mais c'est ok, le monde est ok pour elle. Donc,
d'accord.
Voilà. Et qui, elle, devient indocile. Donc elle a à peu près 20, on avait dit 26 ans et tout. Donc se retrouve dans cette prison-là, où pour elle, ça a existé parce que c'est normal d'exister.
Factuellement, elle
et
savait que ça existait,
coup,
d'accord.
Elle rentre dans ce monde-là. Et donc, elle se confronte aussi aux injustices que Etna a. Donc, du coup, c'est deux femmes qui ne viennent pas du tout du même monde, qui s'entrechoquent et qui, du coup, vont petit à petit forcément parler de leur injustice, peut-être faire sororité pour se déconstruire et peut-être reconstruire quelque chose de plus humanisant. Donc, voilà.
Alors, une société dystopique en l'an 2173, ça a commencé à nous la décrire. Moi, la question que j'ai, Clémence, quand tu joues Etna... C'est quoi que tu ressens ? Ce rôle-là, ça évoque quoi chez toi ?
C'est marrant parce que on a beaucoup travaillé à partir parce qu'on est amis avant tout.
D'accord.
En fait. Et on a beaucoup travaillé à partir de ce qu'on proposait au plateau en tant que comédienne et donc forcément d'une petite part de ce que je suis en tant que personne aussi. Et donc ça m'évoque cette petite part de colère que j'ai en moi que. J'ai tiré et tiré et tiré pour en créer tout un personnage ensemble. Et c'est pas que de la colère ce personnage parce qu'on ne peut pas être que colère, mais effectivement c'est toute cette part sombre de moi qui a envie de révolte, qui a faim de justice et qui s'exprime au plateau grâce à Mel, à son écriture et à notre collaboration dans la création de ces personnages. Parce qu'il faut savoir qu'on a fait ce qu'on appelle de l'écriture plateau.
Ça veut... Alors l'écriture plateau, pour expliquer aux auditeurs, aux auditrices.
Ça veut dire que en fait, Mel est venue avec une idée, un canevas, et nous a proposé des improvisations en tant que personnage à Margot et à moi. Et donc, on a improvisé sur différents thèmes, de différentes manières, en passant par nos personnages. Et ensuite, c'est à partir de là que Mel a réécrit pour en faire la pièce qu'elle est aujourd'hui.
Mais donc, c'est de la co-construction, en fait. C'est un travail d'équipe, finalement, qui se cache derrière
moi,
tout ça.
Moi, j'avais l'idée, comme tu l'as dit aussi, pourquoi on a fait ce spectacle, c'est que, du coup, j'avais la rage. J'en avais marre qu'on me dise que c'est bon, les femmes ont tous leurs droits acquis et ça va, MeToo, c'est un peu trop, là. Donc à ce moment-là, je me suis dit, j'ai envie de parler d'autre chose. Et donc, du coup, en fait, effectivement, j'avais un schéma narratif dans la tête. On avait une autre dramaturge, du coup, Louise Lavozel, avec qui on a écrit toutes les deux un lore sur tout un univers de science-fiction. Et ensuite, je suis arrivée avec l'idée d'Etna, parce que ce qui nous rapproche aussi dans notre féminisme avec Clem, qui a été... Du coup, moi, j'avais des idées pour Etna et ensuite, elle se les réappropriait au plateau. Et Cécilie, ça a été plus complexe parce que ça reste un personnage qui est maman. Mm-hmm. Et donc, aucune de nous est maman. Donc, tu vois, ça a été aussi
l'appropriation
très long,
d'une position.
Exactement. Aussi, on n'est pas du tout de la même classe sociale. Donc, tu vois, il fallait un peu plus creusé. Donc ça, c'était très chouette. Effectivement, je suis arrivée avec des états. J'avais un truc dans la tête, je ne leur disais pas. Et j'essayais des improvisations par rapport à leur état. J'avais un peu contenu, mais dans ma tête, je les laissais gérer pour voir si ça marchait. Et c'est assez jouissif de voir que du coup, j'avais une idée en tête que je pouvais laisser faire un petit peu mijoter sur scène et je revenais. Et donc, entre deux résidences, j'écrivais des trucs, je leur donnais du texte et ensuite, ça construisait comme ça. Donc c'est des allers-retours effectivement en mise en scène, écriture et plateau. C'est très chouette de travailler comme ça.
Alors, par curiosité, vous m'avez toutes les deux mentionné l'intelligence artificielle donc, qui joue un rôle dans cette pièce. Vous la modélisez comment sur scène ?
Eh bien du coup, alors moi j'aime beaucoup tout ce qui est rétro-futuriste. Donc on a pris une radio des années 20, 30, 40, 50.
Ouais, plus que 20 je pense.
Ouais, j'étais en mode, parce qu'on en a plusieurs on en a une dizaine sur scène. Mais du coup, elle s'appelle Gisèle, en lien avec Gisèle Halimi du coup. À 50, je dirais 50. Et on a rajouté des LED, du coup. Un ami nous a fait, qui est ingénieur en robotique, nous a mis des petites LED et tout dessus. Et donc, du coup, c'est une radio fixe, mais qui a des LED et qui parle, la lumière et le son interagissent ensemble. Voilà.
Et, pardon.
Non, pas de souci. Je voulais juste vous demander où est-ce qu'on peut vous voir ? Quand est-ce qu'on peut vous voir ?
Eh bien, cette semaine, on joue là du 3 au 6 avril au local des autrices. C'était anciennement le local et il y a eu un changement de direction. Donc c'est dans le 11e arrondissement de Paris. C'est un très chouette lieu. Je vous conseille d'y aller et d'aller voir leur programmation qui est très très chouette également tout le long de l'année. Et voilà, donc ce sera du 3 avril au 5 avril à 21h au local des autrices et le dimanche 6 à 18h.
On vous invite à aller voir cette pièce, la pièce Louve de la compagnie Rugir. Merci beaucoup à vous deux d'avoir été là ce soir. C'est déjà fini, mais merci d'avoir pu nous expliquer votre concept, votre histoire et votre mise en scène. Et à bientôt.
Merci beaucoup.
Merci Léa, merci Clémence et Mélanie. Hâte de découvrir cette pièce que j'invite nos auditrices à aller voir. Tout de suite, nous écoutons Guéri de Lancelot.
J'ai passé l'amour sous silence. Depuis que mon cœur est sous scellé. Souvent ça part, souvent ça recommence. Vivre seul, je commence à m'y habituer. Je tombe amoureux tous les quarts d'heure. J'en ai rien à battre du bitcoin. J'investis seulement dans les fleurs, les bouquets de pleurs, les tournesols. Toutes mes blessures sont créées par mon imaginaire. Toutes mes blessures sont créées par mon imaginaire. C'est drôle quand on y pense, ma douleur est ma peine. Sont partis en vacances dans un autre cœur qui sait. c'est le remède. Déprimer, c'est le chemin. Aspiré par le vortex, on vit avec une âme en moins. Quand je repense à tout ça, je me dis que tout ça, c'est loin. La boule au ventre, les crises d'angoisse et se pleurer dans les mains. Faire les 100 pas dans un salon pas clean. Ouais, mater des photos de toi en écoutant du Led Zeppelin. Les relations passées, on les idéalise. On nettoie pas notre cœur comme un four sur le mode pyrolyse. Toutes mes blessures sont créées par mon imaginaire. Toutes mes blessures sont créées par mon imaginaire. C'est drôle quand on y pense, ma douleur et ma peine sont partis en vacances dans un autre cœur qui saigne. On dirait que je suis guéri. Aujourd'hui j'ai pas pensé à toi une seule fois. On dirait que je suis guéri. Le temps fait bien les choses, il me ramène à moi. Dans tous les cas, moi je les regardais même pas. Je sors la nuit si je veux, je rentre tard. Je sors la nuit si je veux, je rentre pas. On marcelle plus de messages, j'ai plus besoin de dire de mensonges, non. Je me sens plus du tout coupable, j'ai plus à me ronger les ongles, non. Maintenant j'arrive à dormir la nuit, où y'a beaucoup plus de place dans le lit. Et dans mon ventre y'a plus d'incidents. Et dans mon cœur y'a plus d'incendie. Il m'a fallu bien plus d'un silence. Oh, pour comprendre qu'avec moi, oui je peux vivre. C'est drôle quand on y pense, ma douleur et ma peine sont partis en vacances dans un autre cœur qui saigne. On dirait que je suis guéri. Aujourd'hui j'ai pas pensé à toi une seule fois. On dirait que je suis guéri. Le temps fait bien les choses, il me ramène à moi.
C'était Guéri de Lancelot. Et tout de suite, on termine avec la chronique de Tiphaine.
La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
Nous sommes avec Tiphaine qui est là par téléphone pour sa chronique. Bonsoir Tiphaine.
Oui, bonsoir, je suis bien là. Est-ce que vous m'entendez bien ?
On t'entend très bien Tiphaine.
Eh bien, écoutez, aujourd'hui je voulais vous parler un peu de Marine Le Pen. Alors vous l'avez peut-être déjà fait.
Non, mais non, vraiment, on n'en a pas du tout parlé, tu peux y aller.
Eh bien, écoute, alors je me sens d'autant plus libre d'en parler dans ma chronique. D'abord, je voulais rappeler quelques faits. Donc, aujourd'hui, l'ancienne présidente du RN et aspirante au poste de présidente de la République a été donc condamnée, vous l'avez sans doute tous vu, 4 ans de prison, dont 2 fermes, assortie de 5 ans d'inéligibilité. Elle a été donc reconnue coupable à la fois de détournement de fonds et de complicité de détournement de fonds, avec elle une 20aine de co-accusés, tous eh bien, reconnus coupables. Alors, d'abord, pourquoi je vous en parle ? Parce que le moment, évidemment, est grave. Hein. Ce sont 4 millions d'euros qui ont été détournés par des représentants du peuple français. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le tribunal. Ensuite, parce qu'une question a été largement débattue tout au long de la journée. Je veux parler ici de la peine d'inéligibilité. Je prends du temps pour le dire parce que c'est pas évident. Elle est, dans ce cas présent, exécutoire, donc effective immédiatement, même si Marine Le Pen donc fait appel. Alors, selon ses soutiens, on l'a entendu, je cite, cette inéligibilité va à l'encontre de l'état de droit, car habituellement, lorsqu'un mis en cause fait appel d'une décision de justice, c'est la présomption d'innocence qui prévaut. Les peines sont donc alors suspendues. Vous l'avez compris, ce n'est pas le cas ici. Alors pourquoi ? Eh bien parce que c'est la loi. Et oui, ce sont les députés eux-mêmes qui ont inscrit cette exception dans la loi. Et il faut le rappeler, il n'y a pas si longtemps que ça, Marine Le Pen, elle était plutôt favorable à cette mesure. Il y a 10 ans, dans une interview, elle avait même soutenu que l'inéligibilité devait être à vie. Oui, vous l'entendez, à vie. On est bien loin donc de ce qu'elle déclare aujourd'hui. Et peut-être parce qu'en l'occurrence, en ce moment, l'accusée, c'est elle et non un opposant politique. Dans quelques minutes, à 20h, elle s'exprimera au JTTF1, probablement pour nous dire que la justice en France est politique, pour sous-entendre qu'on lui a volé l'élection de 2027 et que désormais, c'est eux contre nous, comprendre l'État contre le peuple. honnêtement, ça me fait un peu un déjà vu. C'est à peu près les mêmes arguments qui avaient été avancés il n'y a pas si longtemps que ça par un certain Donald Trump. Alors peut-être qu'avant de prendre la parole, elle se rappellera un instant de cette chose. Dour Alex, c'est de l'ex. La loi est dure, mais bon, c'est la loi.
Merci Tiffaine pour ta chronique. Alors l'avantage ce soir, si vous nous avez écoutés, c'est que quelle que soit l'heure où vous avez rejoint la matinale de 19h, vous n'avez pas pu rater l'information phare de cette journée. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous dire ce que c'est. Et c'est déjà la fin de cette matinale. Merci à nos invités Clémence Bresselier, Mélanie Nonotte de la compagnie Rugir, Sylvain Pinault de l'association La Maison Perchée. Merci également à toute l'équipe qui était à mes côtés ce soir, Éléonore à l'interview, PA au flash, Léa au zoom, Isnel et Tiffaine aux chroniques, sans oublier Simon à la réalisation et bien sûr Alice et Maïwenn à la coordination de notre chère matinale de 19h. Merci à vous, chers auditoristes, pour votre confiance et espérons que les dystopies qu'on a évoquées resteront des dystopies et ne deviendront pas réalité. Restez à l'écoute de Radio Campus Paris.